France Musique.
J'attendrai.
André Tuboeuf, Mémoire, une émission proposée par Lionel Esparza, réalisée par Antoine Courtin. Aujourd'hui, quatrième épisode, la révolution du disque. Jean-Sébastien Bach, le choral Jésus que ma joie demeure, arrangé par Miraes et joué en 1950 par Dino Lipati, un enregistrement qui est presque devenu un symbole civilisationnel et qui est matriciel pour beaucoup d'entre nous. Bonjour André Tuboeuf.
Bonjour Lionel.
Il est pour vous aussi matriciel, je crois. Hein.
Je voudrais dire presque plus que cela. Presque plus que cela. Je n'ai pas besoin de vous répéter. Comme on avait peu d'accès à la musique à ce moment-là, même en France, n'est-ce pas? Et comment, clandestinement, enfin, dans mon lycée, dans mon internat, de mon poste à Galène, j'essayais d'attraper des bribes, et pensionnaire comme je l'étais en plus, je n'avais pas accès. Mais accès au monde du dehors. Et l'été 50, juin 50, ma situation a commencé à changer complètement, puisque je préparais l'oral du concours de l'école normale. souvent avec mon ami Michel Deguy, et chez lui, à Neuilly, dans leur maison. Et quand nous avions fait assez d'histoire et de grec ensemble, eh bien, nous écoutions les disques qu'il y avait dans la discothèque de son père, et d'une certaine façon, tout l'esprit de ce qui sera un jour la série Référence est un peu sorti de là, enfin, de la Hammerklavier avec par Schnabel, des concertos brandebourgeois par les Bouches, des concertos de violon de Bach avec Menuhin. Et de Lipati, nous avions cette communication extraordinaire qu'on vient d'entendre, ce Jésus que ma joie demeure. Ces 2 minutes, pas plus, qui venaient à la radio de temps en temps comme une espèce de tube. On n'imagine pas cela, la présence de Bach communiquée par ce très peu de musique, et tout d'un coup c'était, mon Dieu, l'ordre. Et l'ordre dans tout, dans le double sens du terme. Quelque chose d'impératif. Je veux dire, c'est ainsi que tu marcheras et pas autrement. Et l'ordre, c'est-à-dire, voilà, l'itinéraire, la méthode, la discipline, toutes sortes de choses sur lesquelles on doit se modeler. Je dois dire, nous étions des sensibilités de 19-20 ans, nous n'étions pas idiots, bien entendu, nous allions entrer dans de grandes écoles, nous faisions des études supérieures, nous ne savions rien, évidemment. Et la musique, ces 2 minutes de musique, me montraient, voilà, ici tu as à apprendre. Ouvre tes oreilles et écoute-le, lui. Et il était là, au-dessus de nous, comme une espèce de lointain frère aîné, une espèce d'ange. Bon, et ce juillet 50, il se trouve que je suis entré à l'école normale, ce qui évidemment a changé ma vie parce que, voilà, j'avais un état, j'étais étudiant reconnu et autonome, indépendant. Enfin, j'allais être boursier et entretenu par l'état, j'aurais un peu d'argent de poche. Et je serai autonome, enfin je sortirai quand même de l'internat de mon lycée, ça veut dire quelque chose. J'accéderai à la vie libre dans Paris. Voilà, je suis allé entendre Kempf au vieux conservatoire dans Bach et Beethoven. Je suis allé entendre Menuhin à la salle Pleyel dans Bach qu'il jouait avec son beau-frère Kentner. Je suis entré en Bach autant que je le pouvais, mais enfin dans la musique. Il y a eu cette espèce d'expérience pour moi qui a été fondatrice à toutes sortes d'égards. Il y a eu ce décembre, ce début de décembre, je ne sais plus si c'était le 2 ou le 3 ou le 4, et comme tous les dimanches après-midi, nous nous réunissions entre copains, on était 3 ou 4, il y avait Gérard Granel, Michel Deguy, Roland Fonquintano. On écoutait le concert de l'après-midi. Et au lieu qu'il y ait ce concert, ce jour-là, on nous a annoncé la mort de Lipati. Mais en même temps, ce dernier récital qu'il avait donné à Besançon au mois de septembre et que la radio était allée enregistrer. Et le fait est que 3 mois après, comme il l'avait sous la main, il l'avait, voilà, en dépôt, en banque, si je puis dire, au moment où on annonçait la mort de Lipati, on nous prouvait qu'il n'était pas mort et qu'il ne pouvait pas mourir. Puisque quelque chose de lui qui était vivant et qui n'avait jamais été manifesté serait manifesté précisément ce soir-là. Et il y a eu cet incroyable récital qui commençait par la partita de Bach, qui continuait par la sonate de Mozart, et ensuite par les 14 valses de Chopin, enfin, au bout desquelles il n'a pas pu aller, il manquait la 14e. Mais il a pu se remonter jusqu'à son piano et donner en dernier bis « Jésus que ma joie demeure ». Bon, ça fait que bien entendu, cette musique telle que nous venons de l'entendre et qui n'est évidemment pas live et qui est aussi simple qu'elle peut l'être, représente pour moi réellement la réalité de l'appel et j'allais dire de l'obligation, l'ordre impératif dans le double sens du terme. Tu dois. C'est là que tu dois aller et c'est en écoutant cela et en y participant de la façon que tu pourras. Il est clair que tu ne vas pas maintenant devenir l'instrumentiste que tu n'as pas appris à être depuis le début. Tu n'as même jamais fait de solfège, enfin, depuis le temps. Mais n'empêche, tu as trouvé ta voie pour le grec, tu as trouvé ton moyen, tu as trouvé le moyen, il va falloir que tu trouves le moyen. Je veux maintenant écouter, je veux sortir dans Paris, je veux aller voir des pièces au théâtre. Bon, je le faisais déjà tous les dimanches après-midi, mais comme ça je vais pouvoir y aller le soir. Je peux voir des amis, mener la vie de tout le monde, apprendre de la philo très bien. J'aime Platon, je veux me mettre dans Platon, c'est du grec. Donc ça me va très bien. Mais d'abord, je ne vais pas dire je veux vivre. C'était pas ni un appétit de liberté, ni un appétit de rattrapage. Mais l'appétit d'apprendre encore, que je n'avais pas satisfait par le fait de me rendre capable de passer convenablement un concours. Et ça a été la musique, et ça a été la musique, et ça a été la musique. Et pour enchaîner cela comme je crois qu'il faut qu'on l'enchaîne, parce qu'il faudra qu'on en parle ensuite, il y a eu cette espèce de récompense que j'ai pu apporter à ceux qui m'avaient aidé. En leur apportant à mon tour de la musique que je puisse leur faire entendre, parce que voilà, tout de suite, je me suis promené avec mon camarade Faucon-Lambois à l'école. On s'enfermait en principe pour faire du Platon, pour traduire le Sophiste et les choses comme ça. Et on y était très fort, mais on partait le samedi matin, et je dis, on allait aux puces, et on allait chercher de la musique, voilà, de la musique qu'on pouvait acheter, de la musique qui était encore en 78 tours, mais qu'on pouvait acheter, qui était à la portée de nos très petits moyens, parce que le disque, ça coûtait très cher. Un 78 tours, ça coûtait 700 francs. Un micro-sillon, c'était la valeur de 5 78 tours, et ça comptait 3500 francs. Le jour où les maîtres chanteurs paraîtront en 6 micro-sillons, ça veut dire 21 000 francs. Et notre bourse était de 20 000 francs et on en donnait les deux tiers pour notre entretien à l'école, c'est-à-dire qu'il ne nous en restait rien. Et un salaire de professeur, c'était 40 000 anciens francs. Je veux dire que c'était monstrueusement cher. Bon, et j'avais à Bruxelles une marraine qui était fortunée et elle m'offrait un disque à chaque fois. L'année précédente, j'avais rapporté le concerto, le 467 de Mozart par Schnabel et c'était 78 tours. Et cette année-là, il y avait en vitrine Don Giovanni. Et il y avait en vitrine la messe en si, des micro-sillons. Et je me suis dit, mais mon Dieu, est-ce qu'elle va me payer ça? Parce que c'est quand même beaucoup plus cher. Et j'ai hésité longtemps et je bénirai toute ma vie, le fait que le goût immodéré que je commençais à avoir pour la voix et pour l'opéra ne l'ait pas emporté et que je n'ai pas choisi Don Giovanni et qu'à la place, j'ai pris la messe en si. J'étais le seul à l'avoir. C'était le premier enregistrement micro-sillon qui en avait été fait. Il avait été fait en 50, précisément à l'occasion du festival Bach à Vienne, avec les forces de Vienne. Et c'est ça que je rapportais avec la terreur que la douane me le confisque dans ma valise en franchissant la frontière belge. Parce que on n'imagine pas aujourd'hui, je veux dire, le contrôle des changes, l'impossibilité d'abord d'avoir de l'argent pour un étudiant, et à plus forte raison de le transporter à l'étranger pour en rapporter quelque chose. La terreur qu'on me confisque ça, et la joie de me dire, j'ai quelque chose que personne d'autre n'a, c'est le plus grand monument du monde, et je vais pouvoir le faire entendre aux autres. Et j'ai toujours ces trois micro-sillons. Et c'est tout juste si les rails du tramway de Paris n'ont pas passé dessus. Je le portais dans une musette en même temps que je portais les 78 tours. Je portais la bonne parole. Ma bonne parole, c'était pas de la philosophie dont je n'étais aucunement porteur à l'époque. C'était la musique, celle que par passion et par désir j'allais entendre. Et je vérifiais que c'est la nourriture essentielle à laquelle on puisse recourir. Et l'ayant eu, je voulais qu'on la connaisse, tout simplement parce que ça redoublait mon plaisir de la connaître. Ça me faisait l'entendre une fois de plus à chaque fois, et donc l'approfondir. Et dans le Gloria de cette messe en si de Scherchen, il y a les trompettes du début du Gloria, cette espèce de fanfare merveilleuse. Et tout d'un coup, le Et in terra pax qui s'envole, et ce n'est plus que le cœur. Mais le cœur, dans cette espèce d'impalpabilité, de transparence et de plasticité que Scherchen avait, je dois bien le dire, le génie de lui insuffler. Et tout d'un coup, quelque chose se met à planer là-haut et un autre monde s'ouvre, qui est celui d'une meilleure vérité et pour laquelle je ne me connais encore qu'une clé et qu'un passeport, c'est l'écoute musicale. Eh bien, il va falloir l'approfondir et la multiplier. Thank you.
Le Gloria de la Messancy de Jean-Sébastien Bach, dirigé par Herman Scherchen en 1950, un enregistrement que le jeune André Tuboeuf a eu la bonne idée, le bon goût, et pour lui-même surtout, de choisir comme cadeau un jour de ses 20 ans, quelque chose comme ça en tout cas. André, c'est un Bach qui met en relation avec beaucoup de choses aussi, puis peut-être avant tout, on va venir là-dessus, aux études qui sont les vôtres à ce moment-là, avant de venir évidemment à la vie parisienne, au fait que vous sortez beaucoup, il y a le fait que vous étudiez beaucoup, avec beaucoup de monde autour de vous aussi.
J'étudie quand même par la force des choses un peu, il faut que je ne respecte pas la chronologie là, parce que pour moi, ces 4 années, malgré tout, ne font qu'un. Il y a eu des moments où j'étais externe, des moments où j'ai choisi de vivre à l'école normale, mais enfin, ça ne fait qu'un globalement. Et il y a eu, par la musique, je dois dire, un certain nombre de rencontres qui ont été, je veux dire, assez essentielles, parce que il y avait à l'école une possibilité, le samedi soir notamment, que des étrangers à l'école viennent partager le repas du soir, qu'on appelait le pot. Et il y en avait un qui venait très souvent, et qui était Jean-Paul Aron. Jean-Paul Aron était évidemment quand même de quelques années plus âgé que moi. Mais il venait voir à l'école son copain, depuis toujours, Michel Foucault, qui était à l'école et qui venait de passer, lui, l'agrégation. Et qui vivait près de l'infirmerie, remarquablement près de l'infirmerie. Il n'est pas en très bonne santé. Il avait une année d'études supplémentaires. C'est de lui que je recevrai quelques leçons de psychologie. Enfin, les premiers cours qu'il ait donné de sa vie. Enfin, et qui était évidemment d'une finesse et d'une sécheresse et d'une netteté de scalpel qui tranchait absolument avec tout le bavardage qu'il y avait à l'époque autour de la psychologie, soit qu'elle se croit savante, soit qu'elle soit simplement diffuse. Bon. Et Jean-Paul Aron connaissait Bach, il écoutait Bach, il connaissait la cantate 51, il connaissait le duo de la cantate 78, mais en français, avec Germaine Cernet et Martin Angelici. Donc il parlait de Bach avec moi, avec sa lippe gourmande et son accent inimitable, que je n'essaye même pas d'imiter. Bon. Voilà. Ça faisait une sorte de marmite. Il y a eu plus important pour moi, que cela, il y a eu Maurice Clavel, avec qui nous avons beaucoup travaillé, Gérard Granel, Michel Deguy et moi, et j'avais connu Maurice à un bal de l'école normale, tout simplement, en 50, et il se trouvera que j'aurai à prendre le relais de Granel, qui lui était trop occupé, sans doute à sa manière trop paresseux pour cela, il avait trop de choses à faire, plus exactement. Il avait entrepris de traduire Électre de Sophocle à la demande de Clavel, qui voulait faire ça pour Sylvia Montfort, avec qui il était à l'époque. Mais Clavel, qui avait été un esprit humaniste et philosophique brillantissime, et sachant absolument tout, indépendamment du fait qu'il avait libéré Chartres et qu'il était un héros de la Résistance et qu'il était un personnage absolument hors du commun, le savoir encyclopédique de Clavel était une chose absolument insensée. Et d'une certaine manière, à des moments où je m'étais mis externe à l'école normale pour être en vérité plus près de mes amis parisiens, je me trouvais souvent tout seul, là, dans une espèce de bistrot du côté de la Muette avec Clavel. Je travaillais avec lui, nous faisions du Platon ensemble. Il m'a guidé vers ce qui devait être mon diplôme d'études supérieures. Et je dois dire, il y avait un virus tout de même en moi, et clairement, il y avait le virus du chant, enfin, je veux dire. Et pas pour le plaisir égoïste et hédoniste, si je puis dire, du chant, comme chez ceux qu'on appellera par la suite les lyricomanes, mais pour toute autre chose, pour le chant lui-même. D'ailleurs, c'est pas un hasard, ça a commencé avec Bach pour moi, donc c'est vraiment pas pour le plaisir des turlututus et des... voilà. Et d'un autre côté, le chant était aussi le seul instrument qu'à l'extrême rigueur, moi, si peu musicien, je pouvais trouver en moi-même et essayer de cultiver un peu, donc essayer d'apprendre un peu, voilà, d'apprendre un peu le solfège, d'apprendre un peu l'harmonie, pour être capable au moins de tâcher de suivre sur une partition. Et la passion de la voix, je l'avais commencé dans les 78 tours en allant chercher Redberg, Pataki, Tiana Lemnitz, Hans Rotter, enfin tout ce qu'on pouvait déjà trouver au puce. Et l'alternative à Bach, c'était évidemment Mozart. J'avais failli quand même choisir Don Giovanni à la place de la Messancy. Donc j'ai eu la chance de devoir attendre la réédition des 78 tours de la Mozart Society. donc de Glyndebourn, qui avait été fait en 35, si je ne me trompe, à Glyndebourn avec Fritz Busch et toute son équipe. Et je dois dire, c'est la première chose que j'ai connue aussitôt que Victor, la RCA Victor, l'a eu repris en micro-sillon, ce qui le rendait quand même plus facile à transporter pour moi dans mon cartable. Trois micro-sillons, ça coûte plus cher, mais enfin, c'est plus facile à transporter que 20 78 tours qui pèsent 350 grammes chacun, quoi. Donc, mon œuvre de commis voyageur, démarcheur de la musique, m'était quand même facilitée. Et puis, j'ai découvert tout de suite, paradoxalement, dans les enregistrements de Fritz Busch, dans celui-ci et dans Cosy, qui sera réédité juste après, que j'acquérerai immédiatement, quelque chose qui m'a fasciné depuis, indépendamment du génie individuel de certaines voix, comme celle d'Ina Suez que nous allons entendre, l'équilibre que Fritz Busch s'entendait à mettre entre les timbres. Par exemple, quand il s'agit d'appareiller, comme ça leur arrive dans le trio des masques, Elvire et Anna, avec Ottavio qui y participe comme ténor, ou bien dans Cosy, Dorabella et Fiordiligi, prenant souvent l'option claire et l'option maigre, claire et maigre, pour la partie d'en bas, et la portion opulente, sanguine en quelque sorte, colorée, pour celle d'en haut à qui, enfin, simplement, il fallait aménager la flexibilité qui est nécessaire pour Fiordiligi et pour Anna. Autrement dit, d'instinct, j'ai vu que ces voix qui étaient de prodigieuses voix solistes avaient d'abord à être des voix chambristes. C'est-à-dire des voix qui s'apparient à une autre dans des duos, les choses les plus célestes comme Mozart est faite, ou dans des trios. Et je voudrais qu'on réentende cet air d'Anna, Orsay qui l'honore, par Ina Suez, avec ce balancement, cette espèce d'ondoiement de l'âme, qui n'est pas vraiment de l'énergie, qui est une espèce d'élan et de passion, de feu brûlant de la passion, qu'à ma connaissance, aucune Anna n'a su y mettre d'une façon aussi naïve et aussi emportée.
Thank you.
Ina Suez en Donna Anna, du Don Giovanni, de Mozart, 1936 à Glyndebourne. C'était Fritz Busch qui dirigeait ici. Ce disque reporté, bien sûr, depuis en compact disque, mais que vous aviez 78 tours. On rappellera, André Tuboeuf, que pour écouter cette musique, pour l'apprendre aussi, vous nous le disiez tout à l'heure, il fallait porter beaucoup dans tous les lieux où on allait, voire jusque sur la plage.
Voir jusque sur la plage, absolument. La musique, on n'avait pas de baladeur, on n'avait pas d'écouteurs aux oreilles, il n'y avait rien, il fallait mériter la musique en transportant l'instrument qui servait à la jouer et en transportant la chose qu'il y avait à jouer, et cette chose pesait lourd absolument au départ, mais je dois dire que ça en valait la peine, parce que vous voyez, on avait tout d'un coup cet effet extraordinaire, d'abord d'un opéra conçu comme une espèce d'ensemble prodigieusement dramatique mais qui est en même temps de la musique de chambre, et avec cette sorte de dimension de projection supplémentaire que des voix, par elles-mêmes relativement fragiles, se donnent par une espèce de tension passionnelle qu'il y a en elles et qui pousse leur fragilité à quelque chose d'héroïque. Ce qui fait que la puissance n'y est pas en réalité, mais l'effet d'intensité qui est produit est tel que nous sentons la puissance. Alors, quelle discipline il faut pour que ce trop émotionnel et expressif qui est demandé à la voix ne bouscule pas la ligne de Mozart, ne bouscule pas les principes du chant. Enfin, je veux dire, voilà, ce sont les mystères, je dirais, les plus augustes de la fabrication artisanale et artiste du chant, mais pas seulement du chant, du quatuor à cordes aussi, enfin, qu'on expérimentait comme cela. Et vous voyez, dans une période où le boom du disque était loin, bien entendu, d'avoir commencé. Il n'en était même pas question. Le micro-sillon, en vérité, ne faisait que tâtonner. Il est arrivé en France tard. Il n'a fait sa percée que tard. C'est sur les bancs même, enfin, dans les turnes de l'école normale, c'est à partir d'un certain moment qu'on a pu entendre un bruit de fond des Brandebourgeois ou des saisons de Vivaldi qui sortaient des turnes, parce que avec Münchinger, les choses se généralisaient. Mais nous devions beaucoup aller chercher dans le passé pour avoir au moins par fragment, si ce n'est entière, par extrait d'air isolé, des œuvres dont nous disions que peut-être nous n'y aurions jamais accès en totalité, ou du moins pas avant de pouvoir aller dans un festival comme Salzbourg, si c'était possible un jour, si le contrôle d'échange cessait d'être aussi rigoureux, si on pouvait imaginer de faire 1000 km en train et se payer le train, enfin, etc., etc. Et le disque, j'ai appris à rêver la musique à partir du disque, c'est indéniable, et j'ai appris, avec une espèce d'ascétisme, de suffisance, à me dire, on peut faire avec ce qu'on a, et ne nous imaginons pas que ça ne suffit pas. Parce que d'ici qu'on explore la totalité du peu que nous avons encore, eh bien, de l'eau, ce sera passé. Alors, bien entendu, il y avait déjà le festival d'Aix qui, à la rigueur, était... Il était accessible au motif qu'il était en France. Donc, il n'y avait pas besoin du contrôle d'échange et éventuellement, on pouvait y aller en stop, quoi. Mais on rêvait beaucoup de Glyndebourne, d'abord à cause de cette tradition qui avait été fondatrice dès les années 30 pour Mozart. Et on savait que Fritz Busch venait d'y mourir. Donc, des choses se passaient à l'étranger, mais on était obligé de faire avec ce que nous avions à domicile. Et puis, à domicile, bon, nous avions, je ne dirais pas l'opéra, parce que l'opéra, à l'époque, n'était simplement pas fréquentable. Bon, vous voyez, j'y suis allé pour voir à quoi ressemblait la boutique, quoi. Et avec les JMF, pendant que j'étais pensionnaire, j'étais allé voir Yvette Chouviret dans Les Mirages, j'avais vu un ballet, j'avais vu Faust, j'avais vu deux ou trois ballets, et puis c'est tout. J'ai dû voir à ce moment-là, avec un autre de mes amis, Michel Guy, non pas Michel Deguy, mais Michel Guy, qui un jour sera effectivement secrétaire d'État à la culture. Enfin voilà, ça, le goût de l'opéra mène quand même à tout. Nous allions évidemment à l'opéra parce que lui, il y avait accès, il donnait des plantes vertes tout simplement, puis il était horticulteur, comme tout le monde le sait. Il donnait des plantes vertes aux placiers, en chef de l'opéra, au parquet, et le bonhomme lui donnait en échange le fauteuil de Max Derieux, qui était un fauteuil permanent, enfin un fauteuil de fonction, et Michel Guy pouvait y aller tous les jours, et les jours où je désirais aussi y aller, mais moi c'était simplement les jours où Crespin jouait Othello, parce que là ça valait la peine, parce qu'il y avait quelqu'un qui était une vraie chanteuse. Bon, et pour, s'agissant de Verdi, qui n'est quand même pas Jean-Sébastien Bach, un merveilleux Verdi, enfin qui tient quand même la route et qui n'est pas simplement comme on le faisait à l'époque, enfin un peu du boum-boum, un peu passe-partout. Donc moi, on me trouvait une petite chaise qu'on mettait là dans le coin à droite, tout à fait derrière, j'étais coincé, mais enfin j'allais gratis à l'opéra, mais uniquement pour des Othello et des choses comme ça. Mais heureusement, il commençait à y avoir la musique de chambre. Et dans nos vacances d'été, je me rappelle que cette année-là, on s'était tous réunis, les copains, au mois de septembre, si je me trompe, à Cavalère, je pense, dans une maison qui nous avait été prêtée, et où Michel Deguy devait venir nous rejoindre. Et de ma vie, je n'oublierai, il débarquait d'un car, comme on le faisait, je veux dire, personne n'avait de voiture. Et Michel, qui avait dû prendre le train jusqu'à je ne sais pas où, et puis un car, je ne sais pas où, il arrivait avec une espèce de sac sur le dos, pieds nus, marchant dans le sable, et il portait à la main une espèce de, pas de caisse, mais enfin de paquet. Qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet? Les 78 tours du 13e quatuor de Beethoven. On allait passer trois jours, trois soirs, à s'engueuler, il faut bien le dire, comme le font les jeunes gens convenables, en été, à s'engueuler en jouant au bridge, en faisant n'importe quelle bêtise. Mais l'un d'entre nous, pieds nus dans le sable, crapahuté en trimballant le 13e quatuor de Beethoven. Je veux dire, il faut que je raconte ça parce que c'est comme cela que nous étions, et il fallait se donner cette peine-là. Et alors, du coup, c'était le feu de camp. Je veux dire qu'il y avait le gramophone dans la maison, on était sur la terrasse, il était 11h du soir et on écoutait le 13e quatuor de Beethoven. Bon, alors je suis pratiquement sûr qu'à l'époque c'était des 78 tours du quatuor de Budapest. Et ensuite Budapest en a refait d'autres versions qui ont périmé la première, etc., etc. Mais enfin, d'une certaine manière, le quatuor pour moi par la suite, ça sera essentiellement et fondamentalement le quatuor Busch, simplement parce que j'ai l'impression que toutes mes racines d'écoute, depuis le début, et que ce soit par les Brandebourgeois ou par la première musique de chambre, enfin les sonates piano-violon avec Serkin, tout cela, c'est pour moi tellement la fondation, la base même, le principe d'ordre et sans doute de rigueur qu'il y a dans l'écoute. Et j'ai été tellement heureux ensuite, quand j'ai eu à écrire un petit livre sur Adolphe Busch, de pouvoir constater ce que je ne savais pas, que Toscanini, qui n'était pas un tendre, pleurait en écoutant ce qu'il appelait « Ah, questo adagio ». Et il demandait qu'on le lui rejoue, et on ne lui rejouait pas en disque, c'est les quatre du quatuor qui se remettaient, qui le jouaient pour lui comme une espèce d'aubade ou de sérénade pour un de ses anniversaires, et le vieux Toscanini, cette espèce de vieux à la fois, ce vieux dur à cuire de Toscanini, cet horrible Toscanini, qui pleurait en écoutant la cavatine. Et ça aussi, c'est la preuve pour moi que la musique de chambre, ce n'est pas la chose sévère que l'on doit entendre à la tête dans les mains, comme si on était dans le salon de Madame Verdurin, parce que c'est quand même comme ça que dans la légende des étudiants, ça commençait. La musique de chambre, c'est ce que Madame Verdurin écoute, la tête dans les mains, et demande à ses invités d'écouter sans surtout broncher, parce que c'est sacré, et que ça va lui donner la migraine. Bon, eh bien, non, c'est la chose la plus conviviale, c'est la chose la plus ouverte, c'est la chose la plus facile d'accès, c'est la chose qui véhicule la tension émotionnelle la plus fraternelle et la plus fécondatrice. Ben, c'est celle à laquelle, je dois le dire, avec le chant et concurremment au chant, je me suis nourri le plus par la suite. Et on peut dire que le chant, c'est la voie de la facilité et de l'émotion facile, mais le contrepoids qui apporte la musique de quatuor à cordes est évidente. Ce n'est pas pour des raisons frivoles que je m'intéressais au chant. C'est parce qu'il y a aussi du chant dans le 13e quatuor de Beethoven.
cavatine du 13e quatuor de Beethoven, enregistré le 2 octobre 1941 par Adolf Busch et son quatuor. André Tuboeuf, je me rends compte, on est quasiment à la fin de cette émission, on a fort peu parlé finalement de l'école normale et de votre vie, comme si finalement dans ces années-là, tout se réduit autour de ce disque-là. Et pourtant, le disque, vous nous l'avez raconté tout au long de cette émission, et alors une denrée rare quand on est affamé de musique, il faut vraiment faire feu de tout bois. On y pense parce qu'aujourd'hui, on est totalement dans une situation inverse, la disponibilité semble absolue, totale.
Là, tout était rare, même l'essentiel était rare, mais de temps en temps, il y avait dans le rare des rencontres inouïes. Nous avions à l'école un élève américain qui était invité, qui y a passé deux grandes années certainement, qui faisait de l'histoire, qui s'appelait Martin Malia. Et il avait des micro-sillons et qu'il avait choisi avec un tact admirable et un éclectisme admirable. Et on pouvait les écouter chez lui et on découvrait des choses qui en France étaient absolument inaccessibles. Et quand il est parti, il a dit, écoutez, aux quelques-uns qui s'intéressaient à la chose, moi je les retrouverai sans difficulté si je suis en Amérique, quand je serai rentré, mais je les brade, si vous voulez, les acheter d'occasion, et j'ai pu, avec mes ressources, qui étaient évidemment très modiques, j'ai pu m'emparer de 4 trésors. J'ai eu le 15e quatuor, dans la première version qu'en effet les Budapest aux années 43-44, qui est une tension intérieure absolument inouïe. J'ai eu deux quintettes de Mozart pour deux altos, c'est-à-dire la chose la plus belle qu'il y ait au monde en matière de musique de chambre, de sévérité, de sérieux, de mélancolie et de tendresse, avec aussi les Budapest et Milton Katins au deuxième alto. Les deux cantates de Bach pour basse solo, Ich habe genug et la Kreuzstabe par Doda Conrad, avec une voix de rogom, mais une sensibilité, un enthousiasme étonnant. Et, merveille inouïe, les leçons de ténèbres du Mercredi Saint de Couperin, je dirais rien qu'à voir le titre, mais qu'est-ce que ça peut être, pardon. Et on entendait Cueno qui chantait ça tout seul, parce que la troisième leçon était deux voix de ténor, mais la première est vraiment toute seule. Et Cueno, il faisait tout avec un simple claveciniste et une gambe d'accompagnement. Et les lettres hébraïques et l'incipit sur Jérusalem, la déploration de Jérusalem au début. Je veux dire, et pour moi alors, je saurai plus tard que Stravinsky a dit de ce disque qu'il justifie à lui seul l'existence du gramophone, et c'est une belle parole, enfin, parce qu'effectivement, le côté, pas fabricateur de mémoire, mais au contraire, le côté qui ouvre des horizons et qui fait, je veux dire, qui donne tout d'un coup contact à un univers qu'on n'imagine pas pouvoir être si proche et si fréquentable. En fait, cette espèce d'accès magique. On n'est plus dans le monde des monastères. On n'est plus dans le monde des monastères et du secret réservé. On est tout d'un coup dans le monde des bibliothèques et de l'accessibilité des choses les plus rares. Alors, pour moi, c'est en plus un passeport pour le futur, parce que dans la mesure où je serai ensuite très, très, très intimement et durablement lié à Hugues Cueno, enfin, que j'ai revu ensuite 100 fois dans ma vie à Strasbourg et ailleurs, enfin, et avec qui j'aurai une longue correspondance, enfin, qui ne cessera pratiquement jusqu'à sa mort. C'est pour moi comme le moi-même futur qui se présage avec l'entrée par Cueno dans un monde nouveau qui n'est pas Monteverdi, qui n'est pas les madrigaux non plus. Il y avait déjà eu autrefois ces madrigaux avec Nadia Boulanger qui était fondateur, Zefiro Torna. Mais voilà, les vivants de la musique entrent avec moi, entrent avec Cueno pour moi à ce moment-là dans ma vie. Et Dieu merci, ils ne m'ont plus quitté.
Incipit lamentas in Jeremiae prophete.
De la première leçon de ténèbres pour le mercredi saint de François Couperin. C'était chanté par Hugues Queneau. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée à l'écoute de France Musique. Je vous retrouve la semaine prochaine avec André Tuboeuf pour le 5e épisode des Mémoires que nous lui consacrons. Un jeune professeur, ce sera le titre de cette émission.
À réécouter sur francemusique.fr.